VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 27 juillet 2022, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Au Burkina Faso, le président déchu Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Thomas Sankara et à son peuple. En RDC, trois membres de la mission de l'ONU et 12 manifestants tués dans l'Est au second jour de manifestation contre la MONUSCO. Le Mali n'est pas en guerre avec les Nations Unies, assure son chef de la diplomatie. En Mauritanie, les députés adoptent une loi contestée sur les langues nationales à l'école. Le président français Emmanuel Macron affirme au Cameroun vouloir faire de l'Afrique l'une de ses priorités. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a demandé mardi pardon à la famille de son prédécesseur Thomas Sankara, mais aussi à l'ensemble du peuple burkinabé pour les souffrances endurées pendant ses 27 années au pouvoir. Le point avec Abdourahmane Dia.
Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère et plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Sankara, indique l'ex-chef de l'État dans un message lu par le porte-parole du gouvernement burkinabé, Lionel Bilgo. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et les drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leur famille de m'accorder leur pardon, poursuit-il. Blaise Compaoré, 71 ans, était arrivé au pouvoir en 1987 à la faveur d'un putsch qui avait coûté la vie au président d'alors, Thomas Sankara, icône panafricaine dont il était un des proches. En avril, le tribunal militaire de Ouagadougou l'avait condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans cet assassinat à l'issue d'un procès de 6 mois. Renversé par la rue en 2014, Blaise Compaoré vit depuis en Côte d'Ivoire mais a pu faire un bref retour de quelques jours dans son pays début juillet à l'invitation du lieutenant-colonel Sandaogo Damiba, actuel président de transition, pour sceller la réconciliation nationale.
L'Assemblée nationale de Mauritanie a adopté hier soir une nouvelle loi introduisant les langues nationales dans l'enseignement primaire, mais le texte est contesté par la communauté négro-mauritanienne qui dit craindre que l'arabe ne lui soit imposé. La loi introduit pour la première fois l'enseignement scientifique au niveau primaire dans les langues maternelles, tout en imposant l'enseignement de l'arabe aux non-arabes et au moins une langue nationale aux locuteurs arabes, selon des documents officiels. Le français va continuer d'être enseigné à partir du primaire. Le président français Emmanuel Macron veut faire de l'Afrique l'une des priorités de son second quinquennat face à la concurrence de la Chine et de la Russie, mais en pariant sur le soft power plutôt que sur la politique et le militaire. Les détails avec Rosine Mounezero.
Pour Emmanuel Macron, la France n'a pas le choix si elle veut continuer à conserver une certaine influence sur le continent. Mais depuis une vingtaine d'années, nous nous sommes bousculés, peut-être parce que nous nous étions endormis alors que la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie ou l'Allemagne menaient l'offensive et prenaient une bonne partie des parts de marché, a déclaré mardi le président français au premier jour de sa visite au Cameroun. Relevant que la France avait jusqu'à présent trop misé sur le politique et le militaire, M. Macron parie désormais sur la société civile et la jeunesse, avec lesquels il entend parler culture, numérique, sport et environnement. Face à Paul Biya qui a refusé de condamner explicitement l'invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron a aussi vivement dénoncé la présence silencieuse de la Russie en Afrique. Emmanuel Macron est attendu mercredi au Bénin, puis jeudi en Guinée-Bissau.
Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré mardi que son pays n'était pas en guerre avec les Nations Unies, alors que les relations avec la junte militaire de Bamako se sont dégradées ces dernières semaines. Le point avec Nanit Talani.
Les commentaires d'Abdoulaye Diop sont intervenus après une réunion avec le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Il est en visite à Bamako pour discuter de la prolongation d'un an des opérations de la MINUSMA récemment approuvées par le Conseil de sécurité. Le Mali n'est pas en guerre avec les Nations Unies, contrairement à ce que d'autres ont essayé de dire. Même dans une famille, il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais on les surmonte, a déclaré le chef de la diplomatie malienne. Monsieur Lacroix a affirmé que ces entretiens se sont bien passés. Bamako a également annoncé la suspension de toutes les rotations de soutien de la MINUSMA, affirmant qu'une réunion entre les deux parties doit avoir lieu pour faciliter la coordination et la régulation. Pour Monsieur Lacroix, ces rotations sont comme le système circulatoire du sang, il faut les reprendre de toute urgence. Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, a été expulsé du Mali pour avoir publié sur Twitter des informations jugées inacceptables par les autorités maliennes à la suite de l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako au début du mois.
Trois soldats de la paix des Nations Unies et au moins 12 manifestants ont été tués hier lors de l'escalade des manifestations anti-Nations Unies dans l'est de la République démocratique du Congo. La colère a été alimentée par le sentiment que la MONUSCO, la mission de l'ONU, ne fait pas assez pour mettre fin aux attaques des groupes armés. Précision de John Linden.
Selon le colonel Paul Ngoma, chef de la police de Butembo, trois casques bleus, deux Indiens et un Marocain ont été tués et un autre blessé, tandis que sept manifestants sont morts et plusieurs blessés. Plus tôt, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a déclaré sur Twitter qu'au moins cinq personnes ont été tuées et environ 50 blessés à Goma. Les forces de sécurité ont tiré des coups de semonce pour mettre fin aux attaques contre le personnel de l'ONU, a-t-il ajouté. La MONUSCO est la plus grande opération de maintien de la paix au monde. Elle fait régulièrement l'objet des critiques dans l'est de la RDC, où beaucoup l'accusent de ne pas faire assez pour mettre fin à des décennies d'insécurité. Ces dernières manifestations interviennent après que le président du Sénat, Modeste Bahati, a déclaré le 15 juillet à Bukavu, puis à Goma, qu'il est temps pour la MONUSCO de faire ses bagages.
Au Soudan, un nouveau manifestant a été tué mardi alors que des centaines de personnes ont défilé contre le putsch militaire et la résurgence des violences tribales qui ont fait plus de 100 morts en juillet. C'est ce qu'ont indiqué des médecins qui ajoutent que cette mort porte à 116 le nombre de manifestants tués dans la répression depuis le coup d'État d'octobre dernier dirigé par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. En Tunisie, le oui à la nouvelle constitution imposée par le président Kais Saied l'a emporté à une majorité écrasante de 94,6%, a annoncé mardi le président de l'autorité électorale Farouk Bouasker, sur la base des résultats officiels préliminaires. La nouvelle loi fondamentale adoptée lors du référendum de lundi accorde de vastes pouvoirs au chef de l'État, en rupture avec le système parlementaire en place depuis 2014. Elle a été approuvée avec un taux de participation très faible d'à peine 28%.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien président américain Donald Trump, de retour à Washington pour la première fois depuis son départ tumultueux de la Maison-Blanche en janvier 2021, a livré hier un discours digne d'un candidat en campagne, flirtant ostensiblement avec l'idée de briguer un nouveau mandat. Interrogé le même jour sur la chaîne NBC, le ministre de la Justice, Merrick Garland, n'a pas écarté la possibilité de poursuivre M. Trump. « Nous avons l'intention de faire rendre des comptes à quiconque est responsable pénalement pour son rôle dans les événements autour du 6 janvier, dans une quelconque tentative d'interférer avec le transfert légal du pouvoir d'une administration à l'autre », a-t-il dit. Pour sa part, Donald Trump a insulté la commission d'enquête parlementaire qui le met en cause, disant « Tout ça est un coup monté, la commission ne compte que des voyous et des pirates. Quelques nouvelles en bref, les ministres de l'énergie de l'Union européenne se sont accordés mardi à Bruxelles pour que leur pays réduise leur consommation de gaz de façon coordonnée, volant ainsi au secours de l'Allemagne après l'annonce d'une nouvelle baisse drastique des livraisons russes. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a entamé mardi sa première visite dans l'Union européenne depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en se rendant en Grèce pour une visite officielle de 2 jours avant une seconde étape en France selon l'agence de presse du Royaume. Maintenant, la Minute Éco.
La Minute Éco avec Mohamedou Oumfa. Le FMI a annoncé le 25 juillet la validation de la deuxième revue des accords avec le Cameroun au titre de la facilité et du mécanisme élargi de crédit. Le Cameroun va ainsi bénéficier du décaissement de 72,9 millions de dollars de la part de l'institution malgré des résultats globaux du programme de financement jugés mitigés. Le président français Emmanuel Macron a accusé mardi à Yaoundé la Russie d'être à l'origine de la crise alimentaire mondiale. Ce ne sont pas les sanctions qui ont créé la situation, mais bien la guerre décidée par la Russie, a déclaré M. Macron. Ce qu'a démenti le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, également en tournée sur le continent. « Nos amis africains en comprennent la cause profonde », a-t-il déclaré depuis Entebbe, en Ouganda, troisième étape de sa tournée africaine. L'économie mondiale est prise dans une tempête de choc et d'incertitude alors qu'elle tentait de se relever du COVID-19 selon le FMI qui a révisé à la baisse mardi ses prévisions de croissance. La croissance mondiale n'est désormais plus attendue qu'à 3,2% en 2022, soit 0,4 points de moins qu'anticipé en avril, reflétant le ralentissement de la croissance dans les 3 plus grandes économies du monde, les États-Unis, la Chine et la zone euro, avec des conséquences importantes pour les perspectives mondiales, selon l'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourincha.
Les sports à présent avec ce matin Jean-Roger Bion. Jean-Roger, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football, les championnes d'Afrique, les Sud-Africaines, sont arrivées hier dans leur pays.
Les Bayana Bayana ont regagné leur pays après leur sacre à la CAN féminine Maroc 2022. Les championnes d'Afrique ont été accueillies en héros par des centaines de supporters à l'aéroport international Oliver Tambo à Johannesburg. Après 5 finales perdues, les Bayana Bayana se sont offertes le trophée pour la première fois de leur histoire grâce à leur succès. 2-1 en finale contre le pays hôte, le Maroc. Ce titre est une consécration pour les Sud-Africaines qui ont réalisé 6 victoires en 6 matchs. Elles disputeront la Coupe du Monde 2023 aux côtés des Marocaines, des Zambiennes et des Nigérianes.
En Angleterre, Alison Britton est la première femme à la tête de la Premier League.
La nomination d'Alison Britton a été entérinée à l'unanimité par les 20 clubs de l'élite anglaise. C'est une première pour une femme. Madame Britton était auparavant PDG de Whitbread, un groupe d'hôtellerie et de restauration, après une carrière débutée dans le secteur bancaire. Elle succédera début 2023 à Peter McCormick, le président par intérim depuis janvier, après la démission de Gary Hoffman, en raison de la réaction hostile des clubs au rachat du club de Newcastle par un fonds d'investissement public saoudien.
Peut-être sans surprise, Jean-Roger, une étude établit un lien entre les chocs à la tête et les lésions cérébrales.
Oui, des recherches menées par une équipe d'experts internationaux ont révélé que les personnes pratiquant des sports de contact, comme le football américain, le rugby et le football, courent un risque élevé de développer des maladies cérébrales dégénératives. La Concussion Legacy Foundation a déclaré qu'une étude d'experts d'universités des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Brésil et de Grande-Bretagne a trouvé des preuves concluantes que les chocs répétés à la tête provoquent l'encéphalopathie traumatique chronique. Si les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, les CDC, et la National Football League, NFL, ont reconnu ce lien, des organisations telles que la FIFA, World Rugby et le CIO ne l'ont pas fait, souligne la Fondation.
Merci Jean-Roger.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré, en exil depuis près de 8 ans en Côte d'Ivoire, a donc demandé dans une lettre pardon au peuple burkinabé et à toutes les victimes de son régime de 27 ans, notamment à la famille de Thomas Sankara, tué lors du putsch et emporté au pouvoir, M. Compaoré. Les partisans de ce dernier saluent l'initiative, mais les défenseurs de la mémoire de Thomas Sankara estiment que cette demande de pardon manque de sincérité. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Hier mardi, au palais présidentiel de Kossia, Mali Koulibaly, conseiller spécial de Alassane Ouattara et Djamila Compaoré, la fille de Blaise Compaoré, ont apporté une lettre de l'ancien président Blaise Compaoré au président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé. Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement, a lu cette lettre de demande de pardon.
Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leur famille de m'accorder leur pardon.
Mamadou Abdelkader Traoré, coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré.
On peut dire aujourd'hui que ce message vient à point nommé le sens patriotique qui anime le président Blaise Compaoré. Le président Blaise Compaoré est un homme de paix et de dialogue. En partant en exil, il a même dit au peuple burkinabé, je vous demande le pardon. Ce message vient rentrer dans le cadre du processus de réconciliation lancé par le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous voyons ce message comme un message de responsabilité.
Mais ceux qui défendent la mémoire de Thomas Sankara trouvent que la demande de pardon est ambiguë et manque de sincérité. Serge Bayala, membre du comité international Mémorial Thomas Sankara.
Notre ouverture du pardon signifie qu'il doit être débarrassé de toute hypocrisie d'État, de manipulation d'État, d'une certaine légèreté. C'est inadmissible que le pardon de M. Blaise Compaoré ne se fasse pas avec les valeurs de la sincérité, les valeurs d'un homme qui s'assume et publiquement et qui, par respect pour le peuple burkinabé dont il a été le bourreau pendant 27 ans, ce bourreau doit avoir le courage d'assumer son visage de bourreau et ne pas parler avec un langage superflu dans une enveloppe lapidaire envoyée par des individus dont nous ignorons le rôle et la place dans ce processus. Et nous souhaitons que M. Blaise Compaoré, qui souhaite bénéficier du pardon des victimes directes et par ricochet le pardon du peuple burkinabé, qu'il puisse assumer son visage de bourreau et qu'il sorte derrière la couverture des mots pour sous-entendre que c'est les crimes commis sous son magistère, alors que la nuance est de redire les crimes qui ont été commis par moi, M. Blaise, pendant mon règne. Nous ne sommes pas assez dupes.
L'ancien président a appelé les Burkinabés à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de la nation. Pour lui, c'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin aux incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
À noter que Blaise Compaoré a été condamné par contumace à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou le docteur Daniel Kéré, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara.
La demande du pardon doit consister à dire ce que l'on a fait en marche de la justice. Hein. À qui? Pourquoi? Et enfin, demander la clémence de cette famille ou de cette personne. Donc, dire que l'on demande pardon, il y a eu des ouvrages, il y a eu plein de choses qui ont été dites et faites sur l'innommable du drame du 15 octobre 87 au Conseil de l'Entente. Mais en aucun cas, comme dirait notre père il s'en est allé, un 4 août 2006, il avait deux fils. L'un n'est plus. J'attends avec mes portes ouvertes de ma maison, lesquelles portes sont connues par celui qui demande pardon aujourd'hui.
Vous parlez de Blaise Compaoré ?
corporel qui était honnêtement plus fréquent dans la famille, la cour familiale plus que Thomas. Et donc il n'a jamais entrepris quelques démarches que ce soit pour satisfaire la demande du papa. À savoir, vous étiez mes deux fils, l'un n'est plus. J'attends de toi, que Blaise Compaoré, que tu viennes me dire qu'est-ce qui s'est passé.
Est-ce qu'on pourrait dire que la famille Sankara refuse ce pardon ou cette forme de pardon?
Non, c'est pas un refus, c'est le contenu et la forme. Nous sommes en Afrique, envoyer un ministre ivoirien et sa fille le représenter. Personnellement, hein, j'ai envie de demander, est-ce que l'initiative vient de lui-même, de cette fameuse lettre? Le contenu est-il de lui-même? Et le 3, l'idéal aurait été qu'il fasse un, ne serait-ce qu'à distance, une petite vidéo lui-même. Là, ça enlève tout en base par rapport au fait que ce soit lui ou pas. Mais en tous les cas, le pardon se demande, que ce soit dans le domaine religieux ou traditionnel, pour le peu que je sais, avec des formes et une démarche ponctuée d'étapes.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement de Blaise Compaoré?
D'abord, il y a la justice. Sans quoi, le reste serait que du folklore ou un semblant.
Quand vous dites justice, voilà. Vous voulez qu'il aille en prison?
Non, pas, qu'il réponde à la justice. Parce que même la famille Sankara n'est pas au-dessus de la justice burkinabé. En marche de l'appareil judiciaire militaire burkinabé, il peut avoir une forme de règlement ou d'entente entre, maman d'une même famille, puisqu'on considère que c'est un des frères aussi, qui n'a rien dit de clair par rapport à ce qui est arrivé à l'autre frère, Thomas Sankara. C'est pas un refus, hein? Pour l'unité,
la réconciliation nationale.
Mais comment on le fait? La forme et le contenu. À n'importe quel prix. Donc c'est pas qu'on demande, on n'a même pas les moyens de demander qu'il aille en justice. Parce que c'est un verdict de la justice militaire burkinabé, créé sous son règne à lui, Blaise Compaoré.
Est-ce que vous êtes prêt à pardonner si Blaise Compaoré venait au Burkina Faso et décidait de purger sa peine? Il a été condamné à perpétuité, on le rappelle, pour l'assassinat de Thomas Sankara. Par contumace.
Deux dimensions. La justice militaire burkinabé, qui doit faire son travail vis-à-vis du verdict qui a été rendu, vis-à-vis de Blaise Compaoré et de ceux qui étaient absents, ceux qui étaient là et ont reçu leur peine, qui la purgent d'une manière ou d'une autre. L'autre partie par rapport à Blaise Compaoré, c'est qu'il s'adresse à la famille Sankara. Et là, c'est une autre démarche. Nous sommes prêts à pardonner une fois de plus, mais même au-delà du pardon. La réconciliation, la lutte contre le terrorisme, l'unité, mais cela suppose que l'on comprenne qui a fait quoi, où, comment et pourquoi. Justice d'abord. Et quant à ses rapports avec la famille, qui n'a jamais eu lieu depuis le 15 octobre 87, quelques semaines même un peu avant, là c'est une autre démarche à lui de savoir que faire. Mais là c'est une parodie de demande de pardon.
Daniel Kéré, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara à Ouagadougou.
Washington, la voix de l'Amérique.
Au Cameroun, le président français Emmanuel Macron et son homologue Paul Biya ont eu un tête-à-tête ce mardi, abordant divers sujets d'intérêt commun selon les deux chefs d'État. Ils ont donné une conférence de presse conjointe pour évoquer la situation politique au Cameroun ou encore la guerre en Ukraine. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Emmanuel Macron s'est prononcé sur la crise anglophone et prôné la solution de la régionalisation pour résoudre ce conflit séparatiste.
Je demeure en effet convaincu que la régionalisation constitue une réponse à la grave crise qui continue d'affecter le pays dans ses régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et que c'est par ce processus politique de dialogue, de réforme, d'avancée, de conciliation qu'une solution durable pourra être trouvée.
Francis Simeux est expert en gouvernance. Il pense que l'approche du président français est opportune sur le conflit en zone anglophone.
Lors du grand dialogue en septembre 2019, le fait simplement d'avoir choisi d'accorder un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest laissait entendre qu'en réalité, il fallait donner aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest la possibilité de gérer elles-mêmes leurs problèmes.
Au cours de cette conférence de presse conjointe, le président Paul Biya a annoncé qu'il se prononcera seulement à la fin de son mandat en 2025 sur une nouvelle candidature.
Le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Mais autrement, ça sera su. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste. Aussi, je m'en vais au village.
Réaction de Fred Alex Ebé, cadre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale.
Bon, vous savez que généralement dans la culture bantoue, à cet âge-là, on est déjà au village. Donc je pense qu'il est de bon ton qui commence à l'envisager.
Cette visite du président Emmanuel Macron au Cameroun est cependant loin de mettre tous les Camerounais en accord.
Pour moi, Macron avait l'obligation de venir au Cameroun parce que les relations, dans ses relations avec le Cameroun, a senti son absence. Donc moi, je pense que c'est un devoir pour lui de venir ici.
Si véritablement Macron incarne la politique de ses prédécesseurs, c'est que ce n'est pas effectivement bien.
En marge de la visite du président français au Cameroun, une rencontre a eu lieu entre quelques parlementaires français et ceux du Cameroun, ainsi que les partis de l'opposition. Au centre des discussions, la question de la réforme consensuelle du code électoral au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, manifestation mardi contre la présence onusienne pour la seconde journée consécutive. À Goma, Beni et Butembo, les manifestants ont encore demandé le départ des forces de la MONUSCO. Notre correspondant Zanem Neti Zaidi nous en dit plus dans ce reportage.
Plusieurs dizaines de jeunes des Goma ont passé la nuit devant les bases de la MONUSCO vidées de leurs agents. Une foule s'est à nouveau présentée à la base logistique de Goma pour tenter d'épier ce qui restait après les coups de lundi. La police est intervenue, il y a eu encore des dégâts humains, plus de 10 morts et plus de 50 blessés selon les mouvements citoyens. Placide Itula est membre du mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha.
Parmi les manifestants, nous déplorons vraiment qu'il y a déjà des morts. Nous pouvons compter aux environs des 10 morts depuis d'abord la journée du lundi 25 juillet 2022. Quelque chose qui est condamnable parce que la MONUSCO fait partie, je dirais, de la communauté internationale qui défend les droits de l'homme.
Dans un communiqué de presse, la MONUSCO a fermement condamné les attaques de ses bases à Goma et a déclaré qu'elle était à la disposition du gouvernement pour continuer à travailler ensemble afin de rétablir la paix et la sécurité. Le professeur Dadi Salé, analyste politique, soutient que le départ de la force de l'ONU est la solution la plus urgente à la crise.
On n'a pas le droit de penser qu'on doit prolonger cette mission. Non, on doit d'abord l'arrêter, que la MONUSCO dégage. La MONUSCO en partant, naturellement, les Congolais vont se prendre en charge. Il faut bien comprendre que si la MONUSCO ne part pas, avec la conscience collective qui s'installe de plus en plus en République démocratique du Congo, il ne faut pas s'attendre à des bons résultats. Sauf si effectivement les gens continuent à utiliser de la dictature, intimider la population.
Depuis la ville de Beni, où il est en mission, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, tout en disant comprendre la colère de ses administrés, leur a demandé de cesser d'attaquer les agents de la MONUSCO et de se tourner plutôt vers le gouvernement congolais, qui seul peut prendre la décision nécessaire.
La MONUSCO était venue sous la demande de notre gouvernement. La population s'adressera toujours à notre gouvernement qui va prendre des mesures qui s'imposent. Moi, je crois qu'ils sont en train de souffrir dans leur chair, notre population, et moralement aussi. Nous sommes en train de gérer la situation. Je crois que la solution sera toujours trouvée.
Ces mêmes mardis, des manifestations ont également éclaté dans le territoire de Rutshuru et de Lubero, mais aussi dans les villes de Beni et de Butembo. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Mi corazón, baila luna gozar, baila me dio, goza me dio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, y baila ritmo mi son.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloulia. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24.